RRB, le portrait de la semaine.
Lorsque le berceau de la foi catholique en Nouvelle-Calédonie a été attaqué, pillé, incendié, que les sœurs de Saint-Louis ont été malmenées, menacées par les émeutiers, la mère supérieure de la congrégation des petites filles de Marie n'a d'abord pas trouvé les mots. Et c'est dans le silence de sa vocation que sœur Christine a finalement trouvé la force de s'exprimer aujourd'hui pour nous dire que même dans ces circonstances, il faut oser faire le bien.
Je suis originaire de Balade, de la commune de Puebo. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon grand-père était catéchiste et c'est avec lui qu'il m'a initié à la foi chrétienne. Mes parents sont chrétiens aussi et j'étais tellement baignée dedans que la vocation est venue dans les années peut-être 90, puisque je suis rentrée au noviciat du Tabor en 90.
Quand on parle de vocation, ça correspond à quoi? À l'envie de servir, à l'envie de...
Mais moi, je pense que c'était cette envie de servir parce que j'étais tellement dans le service déjà dans ma tribu, dans ma famille. Et comme j'étais l'aînée de mes frères et sœurs, donc c'est ça qui m'a motivée à aller un peu plus loin dans cette recherche du service. Et c'est comme ça que je me suis lancée partir pour voir autre chose, mais aussi servir pas seulement ma tribu ou ma famille, mais l'Église en général. Quand on rentre au noviciat, il y a trois temps de formation. La première année, c'est le temps de postulat où on est initié à la vie de prière, comment on doit vivre ce temps. Apprendre à connaître Jésus de près, dans la prière, dans le silence. C'est le temps de silence aussi. Et nous accompagne dans cette première formation. Et à la fin de ce postulat, c'est le temps de l'initiation à la vie religieuse. Et quand tu te sens appelé à aller un peu plus loin, je fais ma demande d'entrer au noviciat pour faire mon premier pas dans la formation de novice. Et c'est là où la deuxième année du noviciat, c'est l'année sabbatique. On est coupé de nos parents, il n'y a plus à retourner en arrière. Tu essaies de te transformer dans cet esprit évangélique. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je sentais que c'était vraiment ma vocation. Et après, on m'envoie en mission dans une communauté pour vivre un peu l'expérience de la vie communautaire dans une communauté religieuse. En même temps, je vois comment vivent les sœurs en mission, soit chez une sœur enseignante, une sœur éducatrice, une sœur qui vit simplement dans la paroisse, en faisant la catéchèse, en rendant service aux personnes âgées, plusieurs activités qu'elles font. Moi, j'essaie de voir quel est mon charisme dans tous ces domaines-là. Et à la fin de ces troisième années, je fais ma demande pour faire ma première profession religieuse. Et cette profession religieuse-là se renouvelle tous les 2 ans. Au bout de 6 ans, je m'arrête et je vois que c'est bien ça, ma vocation. Et là, je demande à m'engager définitivement. Donc, pour mon engagement définitif, je l'ai fait en l'an 2000 chez les Pères Moines, à Notre-Dame-des-Îles, au-dessus de Saint-Louis. J'ai vécu 3 mois dans le silence. Et j'ai beaucoup apprécié puisque c'est une préparation spirituelle, humaine. Voilà, tu es accompagné par les Pères Moines. C'était leur dernier temps fort que j'ai vécu avec eux avant qu'eux aient quitté la Calédonie pour se retirer en France.
Le silence, ma mère, ça apporte quoi en réalité?
J'aime bien le silence parce que ça m'aide aussi à réfléchir, à approfondir. Maintenant que je suis responsable, il faut que je fasse silence pour que je puisse réfléchir comment accompagner mes sœurs, comment accompagner des jeunes, comment accompagner une personne qui vient vers moi. C'est un peu ce qui se passe dans l'évangile. Jésus, il va évangéliser, après il se retire toujours dans le silence. Et je pense qu'on a besoin du silence aujourd'hui. On est tellement dans le bruit qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas assez. Mais je pense que le silence est très très important pour chacun d'entre nous. Pour déjà l'éducation de nos enfants, les orienter vers une bonne formation, mais aussi les accompagner.
Ce qui s'est passé, ma mère, à la mission de Saint-Louis il y a quelques semaines, vous l'avez vécu comment ça?
Ah, alors là, ce qui s'est passé à Saint-Louis il y a quelques semaines, c'est vrai que c'est... On a mal vécu, hein, parce que comme on a tout brûlé. On l'a mal vécu puisque on nous a surpris déjà. Voilà, j'ai accueilli les deux sœurs à la maison.
Comment vont-elles d'ailleurs?
Elles vont bien. Pour le moment, elles vont bien. Petit à petit, elles sont accompagnées. On les accompagne, mais elles vont bien. Mais je sais que ça ne doit pas être facile pour les deux, puisque les deux, elles vivent la situation. La question qu'on se pose aussi, que je me pose, pourquoi on est arrivé à brûler les églises? Peut-être que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on n'est pas éduqué à la maison pour permettre aux jeunes de comprendre certaines choses ou bien leur apprendre ce qui s'est vraiment passé au début de l'évangélisation en Nouvelle-Calédonie. Et s'ils ont brûlé, c'est parce que des fois, peut-être qu'on ignore l'histoire de l'arrivée de l'évangélisation en Nouvelle-Calédonie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tellement pris dans le bruit qu'on apprend que sur le trottoir ou sur la route, des choses qu'on apprend comme ça. Mais on n'apprend pas dans la case quelque chose qui est vrai. On reçoit ce qu'on nous dit. On ne cherche pas à la vraie histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là?
C'est quoi la vraie histoire, ma mère?
Ben c'est juste raconter aux enfants, aux jeunes, le début de l'histoire, pour qu'ils puissent comprendre. Mais si on n'a jamais raconté, peut-être qu'on a perdu le fil conducteur quelque part.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Alors, ce qu'il faut faire maintenant, on est en plein événement, peut-être retravailler, créer des choses, des petites cellules de parole ou des temps de parole où les gens puissent s'exprimer. Peut-être voir comment on va accompagner les jeunes à partir de ce qu'on sait, ce qu'on ne on leur dit pas, mais qui sont là en nous. Les premières personnes à amener une bonne parole dans la maison, c'est dans la famille, les parents. Et si cette parole-là, elle est déjà ignorée dans la famille, mais comment voulons-nous que les jeunes puissent écouter la voix de la chefferie ou de l'église ou de la politique? Parce que, voilà, il n'y a plus de référent.
Vous avez connu la première période des événements, et c'est la deuxième. Comment vous le vivez? Comment vous le ressentez, tout ça?
Mais elle est plus dure que la première. En 84, moi, j'étais encore chez moi. Pour moi, personnellement, c'est vrai qu'elle était différente de ces événements d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tout est détruit. Mais je le vis de façon... J'essaie de mettre en parallèle les deux événements. Bon, aujourd'hui, il y a plus de solidarité et j'apprécie beaucoup cette solidarité entre les personnes. Et c'est ça que je ressens aujourd'hui. On est dans une grande épreuve à cause des événements, mais je vois que la solidarité entre nous nous permet de se soutenir, de se maintenir moralement et spirituellement et humainement.
C'est comme ça qu'on reconstruit le lien qui a été un peu abîmé? Par la solidarité,
Oui, par la solidarité, l'approche de l'autre. Tu apprends à connaître l'autre en étant solidaire, mais aussi on l'écoute. On écoute l'autre dans ses difficultés, puisqu'il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Et ça m'a vraiment touché, ça. Le fait qu'il y a beaucoup de mères, de pères de famille qui ont perdu leur emploi, les entreprises... Les jeunes qui ont du mal à aller à l'école parce que voilà, il y a des choses qui... Ça me touche vraiment.
Vous restez optimiste.
Je pense que il y a toujours une issue, une sortie à tout. Hein. On est là, mais faut penser aller de l'avant, toujours aller de l'avant, oser faire du bien, parce que voilà, faut pas trop rester dans ces zones négatives. Il faut sortir, il faut aider les autres à se relever. Je sais qu'il y a beaucoup qui souffrent, mais bon. Il faut faire avec. Chaque jour, une page blanche sur un cahier. On fait notre journal chaque jour avec des belles paroles qui nous élèvent, qui nous tirent vers le haut. Et puis, en faisant cet exercice, ben, on amène à l'autre une bonne parole chaque jour, quoi.
Saint-Louis, c'est aussi un symbole, non?
Oui, de l'histoire, tout est... Voilà. Ben, Saint-Louis restera toujours... L'histoire de l'Église en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est tout a commencé à Saint-Louis. J'aime Saint-Louis, c'est notre berceau, le berceau de la congrégation. C'est arrivé ce qui est arrivé, mais on ne reste pas négatif dessus. Il faut trouver une sortie positive, quoi.
Et peut-être faire silence un peu pour réfléchir.
Voilà, faire silence et puis réfléchir comment on va accompagner chaque personne. Voilà. Mais il y a toujours une passerelle, une lumière qui nous maintient. Mais c'est la foi. Si on a la foi, mais on arrive à se rencontrer, se parler, peut-être se pardonner.
C'est important le pardon, y compris dans la culture kanak.
Ah oui, c'est important. Quand on fait le tri dans notre vie, si je suis une personne rancunière, ben, il n'y aura pas de pardon. Mais si je me dis en moi-même, avec la lumière de ma foi, que je laisse de côté ma méchanceté, tout ce qui n'est pas bien en moi, et je vais vers l'autre.
C'est possible?
Ben, c'est possible quand on le veut.